Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Nous nous souviendrons longtemps de l'année 2020, annonciatrice de temps incertains. Alors pour mettre de l'ordre dans nos émotions, j'ai invité le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, qui fait paraître chez Fayard un manuel intitulé « Vivre dans un monde imprévisible » et toujours chez Fayard, un échange de pensées avec Nicolas Hulot, rassemblé dans un ouvrage qui a pour titre « D'un monde à l'autre, le temps des consciences ». Ouvrage qui nous alerte sur le fait que nous vivons vraiment un moment décisif pour l'avenir de l'humanité.
Europe 1.
Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour Isabelle.
Frédéric Lenoir, bon, l'avenir a toujours eu sa dose d'incertitude, n'est-ce pas? Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, hormis les périodes de guerre mondiale au XXe siècle, eh bien, personne ne peut prédire dans quel monde on vivra dans 10 ans. Voilà, guerre des virus, robotisation, intelligence artificielle, dysfonctionnement climatique, krach financier, radicalisme religieux, racialisme, mainmise de la Chine sur les démocraties occidentales, pensée unique et peut-être 8 milliards d'êtres humains masqués désormais. En fait, la mondialisation qui était inévitable est notre talon d'Achille. C'est ce que vous dites en avant-propos de votre livre, de votre manuel. Ce monde globalisé, il pourrait causer notre perte ?
Eh bien, ce qu'on découvre avec ce coronavirus, c'est ce que beaucoup d'observateurs avaient déjà dit, mais là tout le monde le vit concrètement, c'est que la mondialisation a évidemment apporté beaucoup de choses à l'humanité, mais on voit à quel point elle nous rend fragiles, elle nous rend extrêmement vulnérables, puisqu'on est tous interconnectés et dépendants les uns des autres. Donc il suffit que vous ayez une centrale nucléaire qui explose quelque part, eh bien, on est tous concernés. Si vous avez une crise économique quelque part, on est tous concernés. S'il y a un virus quelque part, on est tous concernés à cause de la circulation incroyable des biens et des personnes. Donc finalement, on est tous dans le même bateau pour le meilleur et pour le pire. Donc ça a des avantages, on le voit, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc il va falloir mieux réguler la mondialisation, il va falloir relocaliser tout un certain nombre de choses, on est en train de s'en apercevoir. Quand on découvre que le Doliprane était fabriqué en Chine, c'est quand même quelque chose qui fait peur. Non mais on ne le savait pas, vous voyez, donc on découvre
90% des médicaments, n'est-ce pas?
Oui, mais bien sûr. Et donc il va falloir qu'on prenne des mesures pour ne pas être tout le temps dépendant de ce qui se passe à l'autre bout du monde.
Alors, puisque vous avez évoqué la Chine, Frédéric Lenoir, en chinois, le mot « crise » est représenté par 2 idéogrammes. Hein. L'un signifie « danger » et l'autre « opportunité ». Et puis, l'étymologie du mot « crise » en grec signifie qu'il faut faire un choix. Donc, toute crise, en théorie, doit conduire à saisir des opportunités. Mais encore faut-il les voir. Et puis surtout, il faut être d'accord sur les choix.
Bien sûr. Alors, c'est très intéressant, cette étymologie. Parce qu'effectivement, dans une crise collective comme celle que nous vivons, ou dans une crise individuelle, chaque personne traverse des crises dans sa vie, c'est-à-dire des moments de rupture, des moments d'échec, des maladies, des deuils, etc. Eh bien, dans toute crise, on peut comprendre qu'il y a aussi l'occasion, la possibilité, l'opportunité de voir les choses autrement, de changer. On connaît tous des gens qui, après un cancer, après une grande épreuve, ont été transformés et nous disent finalement c'était très dur, mais je vois les choses autrement et peut-être que maintenant je me suis amélioré dans tel domaine où j'ai changé quelque chose d'essentiel dans ma vie, j'ai changé de boulot, je suis parti vivre à la campagne, je me suis éventuellement séparé ou j'ai été vers quelque chose qui me convient mieux. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours dans la crise quelque chose qui nous dit ça ne peut pas continuer comme ça. C'est d'ailleurs l'étymologie là au niveau grec. L'étymologie chinoise c'est l'opportunité et les grecs ça veut dire ça ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut changer de logique, il faut changer de regard, il faut voir les choses autrement. Il faut essayer d'élargir son regard. Et donc, du coup, ça donne une dimension positive à la crise. Et je pense que ce qu'on vit collectivement aujourd'hui, il faut le regarder positivement. C'est-à-dire qu'effectivement, la mondialisation a été trop loin dans trop de domaines et qu'il faut aujourd'hui comprendre qu'il faut mondialiser certaines choses, mais il faut également arriver à ce qu'on soit autonome dans tout un certain nombre de domaines, et puis qu'il y a effectivement une surconsommation qui étouffe la planète. On pille les ressources naturelles, on détruit les écosystèmes, et quand vous détruisez les écosystèmes, quand vous déforestez des forêts entières comme on le fait depuis des dizaines d'années, eh bien les animaux n'ont plus leur habitat naturel, ils se mélangent avec les humains, ils transmettent des nouveaux virus, et 70% des nouveaux virus depuis 30 ans sont zoonoses, c'est-à-dire viennent des animaux qui ont été chassés de leur habitat naturel. Et donc les conséquences, on le paye très cher.
Alors, je n'ose évoquer le mot « joie », parce qu'en ce moment, on a le sentiment que vraiment l'humanité avance masquée. Comment retrouve-t-on la joie lorsqu'on est contraint? Comment on retrouve la légèreté, surtout l'insouciance, dans ce monde finalement malade de tout et surinformé?
Alors là, vous soulignez un point important, c'est que la surinformation nous montre tout ce qui va mal partout. Mais ce n'est pas la réalité. Le monde ne va pas mal partout. Bien sûr qu'il y a des maux, mais il y a toujours eu des maux d'ailleurs dans l'humanité. Il faut savoir que globalement, le monde va mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'on a éradiqué quantité de maladies, il y a beaucoup moins de violence au niveau collectif. Par exemple, il y a des études qui ont été faites qui montrent dans une ville comme Londres, il y avait infiniment plus de crimes, de meurtres, etc. il y a un siècle qu'aujourd'hui, infiniment plus. Donc la violence a reculé, l'espérance de vie a augmenté partout, le confort matériel pour la plupart des humains a augmenté partout. Donc il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Ce qui ne va pas, c'est au niveau collectif, la pression qu'on exerce sur la planète et sur les écosystèmes. Et c'est ça qui est le grand enjeu de notre temps, c'est l'écologie, c'est l'enjeu planétaire du 21e siècle. Et donc là-dessus, il faut être conscient de ce danger. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui va bien. Et donc je crois qu'effectivement, si on n'écoute que les informations, on se dit tout va mal. Mais il y a plein de gens qui vont bien.
Oui,
il y a plein de gens
qui sont heureux. Justement, si on écoute les news, on en arrive à se demander si être heureux n'est pas un projet égoïste. Frédéric
Alors,
Lenoir.
Pour moi, pas du tout, puisque je suis convaincu que le bonheur est contagieux. C'est-à-dire quand vous vivez avec quand vous vivez avec des gens joyeux et heureux, bah ça vous rend plutôt joyeux et heureux. Quand vous vivez avec des gens déprimés, c'est plus difficile. Et donc, je crois que le bonheur individuel participe au bonheur collectif. Et quand vous êtes dans un pays où les gens sont plutôt, et j'ai la chance de voyager, et il y a des pays où les gens sont quand même manifestent plus leur bonheur qu'en France. Hein, en France, par exemple, quand je pars aux États-Unis ou dans d'autres, au Canada, etc., vous dites aux gens ça va toujours super. Vous dites formidable. Et tout. Vous rentrez en France, ça va, oh bon, pas tellement. On voit bien qu'on est très critique en France. On se plaint beaucoup, on voit toujours le verre à moitié vide. Et donc, pas tout le monde, hein, mais beaucoup de Français sont comme ça. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, je crois que d'essayer de transmettre du positif, de regarder les bonnes choses, de regarder le verre à moitié plein, eh ben, ça nous permet d'aller mieux à titre individuel, parce qu'on se porte dans une belle énergie. Puis ça permet aussi aux autres de communiquer des bonnes choses et pas que le négatif. Donc je crois qu'il faut qu'on apprenne un peu en France à cultiver le positif. On a la chance de vivre dans un pays extraordinaire. C'est un pays dans lequel il y a quand même, on est soutenu par une sécurité sociale. Il y a plein de pays dans lesquels vous tombez malade, il faut sortir votre carte bleue tout de suite. Il n'y a aucun remboursement. Il y a du chômage, mais on nous aide qu'on est au chômage. Donc il y a c'est un pays magnifique au niveau des paysages, au niveau culinaire. On a une chance incroyable. Et finalement, on a l'impression de vivre en enfer. Vous savez ce que nous dit Sylvain Tesson ? Mais c'est Sylvain Tesson, j'adore cette phrase. Il nous dit « La France est un paradis dont les gens qui le peuplent croient vivre en enfer ». Et c'est un peu vrai. Donc essayons de voir les bonnes choses.
Et bien justement, au cours de l'heure qui va s'écouler, vous allez nous donner des clés pour apprendre à vivre de manière positive. On retrouve tout de suite Frédéric Lenoir.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Frédéric Lenoir publie chez Fayard « Vivre dans un monde imprévisible », sorte de petit manuel de résilience, et publie également chez Fayard un autre livre, alors d'un ordre tout à fait différent, co-écrit avec Nicolas Hulot, dites-nous.
D'un monde à l'autre. En fait, c'est tout simplement que j'ai publié « Vivre avant l'été », « Vivre dans un monde imprévisible », c'est un petit manuel qui s'adresse à l'individu. Le but, c'est de voir
écrit
comment...
Écrit pendant le confinement.
Exactement, c'est un petit livre écrit pendant le confinement pour aider les gens à mieux vivre la déstabilisation de ce qu'on est en train... Et donc, c'est plutôt un livre de philosophie qui utilise la psychologie, les neurosciences, etc. pour nous aider, chacun d'entre nous, à mieux vivre dans un monde instable et incertain. Et puis, j'avais depuis un an un travail de longue haleine avec Nicolas Hulot sur les grands enjeux de notre temps. Et donc, ce livre s'appelle « D'un monde à l'autre » et finalement, ils sont très proches, effectivement. Et ce livre-là s'intéresse aux grandes questions collectives dans quel monde on veut vivre.
Sous-titré « Le réveil des consciences ». Alors, revenons à vous, Frédéric Lenoir. Je sais que vous vous sentez très proche du taoïsme, ce courant philosophique apparu en Chine au VIe siècle avant notre ère et qui, entre autres, utilise l'humour comme facteur de détachement. Alors, le détachement, pour visualiser de façon globale une situation, c'est parfait, mais c'est dangereux, le détachement. Ça peut amener à l'indifférence.
Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, quelle est la différence entre l'indifférence et le détachement? Et en fait, je crois que la différence, c'est que... Enfin, prenons l'indifférence. L'indifférence, c'est l'absence d'empathie, l'absence d'amour. On est indifférent au sort des autres. Dans le détachement, on est totalement concerné par le sort des autres, par l'altruisme, etc. Mais on essaye en même temps de ne pas être embarqué dans ses émotions pour ne pas, par exemple, sombrer avec celui qui sombre à côté de nous. Je vais vous donner un exemple. Un médecin urgentiste du SAMU. Heureusement qu'il a du détachement. Il a beaucoup d'empathie. Sinon, il ne ferait pas ce métier. Il a de l'altruisme, sinon il ne ferait pas ce métier. Mais s'il n'avait pas de détachement, il serait emporté par ses émotions. Il serait incapable d'opérer un grand accidenté. Il serait incapable de voir du sang. Et donc, il faut du détachement pour être un bon médecin. Mais ça n'empêche pas qu'un bon médecin est altruiste. Et c'est ça le détachement. Et ça, on peut l'appliquer à tout.
Frédéric Lenoir, l'homme est un animal social. hein, affirmait Aristote. Mais bon, 23 siècles plus tard, la crise planétaire du Covid nous apprend concrètement à nous méfier tous les uns des autres. Et je constate, hélas, que même la délation est réapparue de façon assez sauvage, c'est frappant. Alors, quand les autorités de tous les pays annonceront que le port du masque n'est plus nécessaire, comment les gens parviendront-ils à se débarrasser, à se délester de cette peur de l'autre avec laquelle on les aura forcés à vivre pendant 2, peut-être 3 ans, on ne sait pas, à moins que le port du masque ne devienne définitif comme en Asie?
Oui, c'est un vrai sujet d'inquiétude, hein, parce qu'effectivement, on a besoin du contact physique avec les autres, et notamment les enfants. Qu'est-ce que les enfants ont besoin de contact, et là, de plus pouvoir se toucher, etc., notamment à l'école et tout, c'est un vrai problème. Et j'espère que ça va pas durer trop longtemps, parce que ça peut faire des dégâts psychologiques très importants.
Oui, parce que 5, 6, 7 ans, découvrir, en fait, l'univers de l'école avec uniquement des visages masqués,
oui,
c'est-à-dire plus de visages, pas d'expression, la peur de l'autre.
D'ailleurs, il faudrait que les enseignants montrent leur visage au début du cours, avant de mettre le masque à une distance de sécurité, hein, à quelques mètres, parce que c'est très important que les élèves découvrent le vrai visage de leur enseignant, pas uniquement avec le masque. Il y a plein de petits gestes comme ça qu'on peut avoir pour remettre un peu d'humanité au sein de cette protection nécessaire. Et donc, il faut qu'on redécouvre la force du lien, parce qu'on en a absolument besoin pour s'épanouir humainement. Et en même temps, le virus nous amène effectivement à mettre de la distance,
à renoncer du lien social. Alors pour la jeunesse, par exemple, et là j'évoque les ados, elles risquent de se trouver encore plus immergées dans le virtuel des réseaux sociaux.
Alors, on a tout un chapitre dans le livre avec Nicolas Hulot, D'un monde à l'autre, sur le réel et le virtuel. Parce qu'effectivement, le virtuel pose un vrai problème. Alors, on n'est pas contre le virtuel. Bien sûr que tous les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, que le fait de se connecter à Internet, ça nous a révolutionné nos vies avec des choses très positives. En même temps, il faut énormément être vigilant pour ne pas tomber dans une addiction. Or, tous les grands géants du web et tout font tout pour qu'on devienne addict, avec des notifications en permanence, etc. Et tout est calculé pour ça. On cite des grands responsables, par exemple, de Facebook, qui ont quitté Facebook, qui disent « qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le cerveau de nos enfants ?» C'est-à-dire qu'on est en train de créer en permanence de l'addiction. Après, on utilise leurs données personnelles pour leur envoyer des pubs qui vont dans le sens de ce qu'ils aiment, pour qu'ils achètent encore plus. Donc, on en fait des consommateurs dociles. Donc, on est en train de nous aliéner, de faire des esclaves, finalement, qui vont aller acheter de manière pulsionnelle des choses parce qu'ils ont reçu toutes ces pubs sur leur smartphone. Et donc, là-dessus, il faut être vigilant, il faut savoir, il faut avoir du discernement.
Mais ça veut dire quoi, être vigilant ?
Être vigilant, ça veut dire avoir du discernement, c'est-à-dire savoir qu'on est mis en addiction. Et donc, deuxième chose, ne pas être tout le temps devant ses écrans. Ne pas permettre à ses enfants d'être sans arrêt sur leur smartphone et leur expliquer qu'on est en train de les rendre addicts à ça. Et que donc, ils perdent leur liberté. Il faut réexpliquer aux enfants le sens de la liberté. Que la liberté, c'est justement de ne pas céder à une pression qui nous est faite de l'extérieur, par la société, par les réseaux sociaux, etc. Et de garder cette distance qui nous permet de dire, ben là, effectivement, il faut que j'arrête. Il ne faut pas que je sois pris simplement parce que ça m'apporte du plaisir immédiat. Et ça, sinon, je dormirai mal, je vais être anxieux, etc. Donc les enfants, ils le voient bien, qu'il y a des conséquences négatives hein, sur leurs humeurs, etc. Donc il faut leur expliquer les conséquences négatives. Et moi, je connais des enfants qui ont parfaitement compris ça et qui se limitent, qui arrivent à s'auto-limiter.
Alors en ce moment, 24 heures sur 24, on nous parle des gestes barrières. On nous parle de masques. En fait, notre civilisation, elle est en train de faire de la santé la valeur suprême au risque de tomber dans l'idéologie de l'ordre sanitaire. Ça peut être un danger redoutable car la vie vraie n'est pas une promesse de perfection clinique, Frédéric Lenoir. Oui. Avec l'ordre sanitaire, on va mourir en bonne santé, mais peut-être sans avoir vraiment vécu.
Ouais, alors bien sûr, c'est toujours une question d'équilibre hein, dans la vie, toute une question de juste milieu et d'équilibre. Et effectivement, actuellement, il y a une telle peur sanitaire que la précaution...
Vous la comprenez, cette peur?
Mais je la comprends tout à fait, parce que effectivement, on ne sait pas ce que c'est que ce virus, il semble qu'il ait des effets très différents chez les gens, on ne sait pas d'où il vient exactement. Donc c'est normal qu'il y ait il y a une dimension irrationnelle qu'on ne maîtrise pas encore dans ce virus. Donc c'est normal qu'on ait peur. Mais en même temps, il ne faut pas basculer dans une peur permanente qui fait que on ne pourrait plus, par exemple, aller visiter ses proches s'ils sont en train de mourir. Ça, je pense que c'est plus important que la précaution sanitaire. Si vous avez quelqu'un dans un EHPAD, une maison de retraite, à l'hôpital qui est en train de mourir, la chose la plus importante, c'est de l'accompagner. On ne peut pas mourir seul, on ne peut pas laisser un proche mourir seul. Or, pendant le confinement, souvenez-vous, on a interdit aux personnes d'aller accompagner leurs proches qui mouraient dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. C'est un scandale. Ça, il ne faut jamais le refaire. Parce qu'on peut très bien mettre un masque et se protéger au minimum pour ne pas risquer de contaminer les autres personnes. Et en même temps, faire quelque chose de plus important que la précaution sanitaire ultime, qui est d'accompagner dignement quelqu'un qui est en train de mourir. Et puis, je pense que dans la précaution sanitaire, il faut faire attention aux libertés aussi. Donc, effectivement, c'est important qu'on prenne des précautions. Il ne faudrait pas demain qu'on trace tout le monde et qu'on oblige tout le monde à voir sur son smartphone.
C'est déjà fait.
Oui, alors c'est fait sans qu'on sache. Mais là, je pense qu'il faut quand même que le politique ne se serve pas de ça. Et on le sait qu'en Chine, hein, c'est déjà fait. Où là, ils tracent tout le monde et c'est une dictature.
C'est
qui utilise le sanitaire.
Que je parlais
pour que
en
les
fait,
individus soient
au
fichés.
Au début de cette conversation, de la mainmise de la Chine justement sur les démocraties occidentales.
Il faut faire très attention à ça. Il ne faudrait pas qu'on bascule dans des régimes autoritaires qui, au nom du sanitaire ou de la lutte contre le terrorisme, parce que regardez, la lutte contre le terrorisme, on a mis des caméras partout. Il y a des villes, à Nice par exemple, ils ont mis des caméras de reconnaissance faciale partout. Alors ça peut avoir une utilité. On sait qu'il y a eu ce traumatisme au côté
aussi.
Pour la délinquance, etc. Mais ça peut être
agressions.
Très dangereux. Parce qu'après, tous les individus sont fichés et reconnus de manière faciale. Mais demain, si vous avez un régime un peu autoritaire, c'est comme ça qu'on va interdire les manifestations. Les opposants seront tous fichés et dès qu'ils manifesteront, ils iront en prison. Donc, c'est très dangereux, la reconnaissance faciale. Et vous avez des villes aux États-Unis, par exemple San Francisco, maintenant, a enlevé tous ses caméras à reconnaissance faciale en disant « ça peut conduire à une dictature ». Donc, il faut toujours trouver un équilibre et ne pas basculer dans la psychose et dans la peur qui servirait les États autoritaires.
Entre tout de suite, Frédéric Lenoir.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Bon, Frédéric Lenoir, il n'est pas courant de débuter son adolescence en plongeant dans la lecture du Banquet de Platon. Voilà, c'est votre père, René Lenoir, énarque, catholique progressiste, inspecteur des finances et secrétaire d'État à l'action sociale sous Giscard de 74 à 78, qui vous avait en quelque sorte imposé cette lecture. Et finalement, finalement, vous avez dévoré cet ouvrage qu'on ne lit pas, bien sûr, à 12 ans. Qu'est-ce que vous y avez trouvé qui a fait écho en vous ?
Ben en fait, le Banquet de Platon, d'ailleurs, il est assez facile à lire. Hein. Il y a des ouvrages de philosophie difficiles. Celui-là, c'est un des plus faciles à lire, puis c'est un dialogue. Ça pose la question de l'amour. C'est quoi l'amour ? Et c'est une question qu'à 13 ans, je l'avais 13 ans quand je l'ai lu, c'est une question qu'on se pose à 13 ans. Hein. On commence à avoir des émois amoureux. Et donc, il me dit, tiens, lis ce bouquin. Et j'ai trouvé passionnant parce que ce sont des philosophes qui discutent lors d'un banquet. Donc, en plus, c'est sympathique, hein, ils mangent bien. Et ils se disent, dis-nous pourquoi, c'est quoi l'amour pour toi ? Et ça m'a passionné. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important de réfléchir aux choses, de pas simplement les vivre. Vivre l'amour, c'est très bien. Mais c'est quoi ce sentiment amoureux ? Pourquoi je suis attiré par quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Pourquoi je perds ma lucidité ? Etc. Et donc, là-dessus, je pense que la réflexion philosophique nous apprend à être lucides sur ce que nous vivons, à être conscients de ce que nous vivons et à mieux réfléchir sur nos émotions, sur ce qui nous anime, sur nos désirs, etc. Et ça m'a donné envie de faire de la philosophie. Et donc, il m'a inoculé ce livre, le virus de la philosophie, qui ne m'a jamais quitté.
Oui, parce que à lire, en fait, ce que vous avez confié sur votre enfance, on a le sentiment que vous étiez peut-être un peu étouffé par la stature, le savoir de ce père magnifique. Très autoritaire, mais en même temps, il vous a guidé d'une manière admirable.
Ah ben, ce que je dis, c'est que mon père m'a à la fois empoisonné et donné l'antidote pour le poison. L'empoisonnement, c'est très autoritaire et qui fait que je n'avais pas le droit d'exister en dehors de lui. Quoi. Il fallait toujours lui être soumis pour avoir l'affection. Et en même temps, il m'a donné par la philosophie l'antidote qui m'a permis de réfléchir et puis de me révolter et puis de prendre de la distance et puis d'être moi-même.
Votre maman ne savait pas témoigner en fait de l'amour à ses quatre enfants.
C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup d'amour pour nous, les deux parents d'ailleurs, mais son défaut à elle, et c'était son éducation catholique, très stricte, c'était...
Donc verrouillée en elle-même, trop dans la réserve.
Complètement, il ne faut jamais dire à un enfant qu'on l'aime ou qu'il est beau, etc. On va éveiller son orgueil et puis il ne faut pas le toucher, on va éveiller sa sexualité. Alors vous voyez, donc une mère qui ne vous touche pas, c'est quand même pas terrible. Et elle en a souffert elle-même, elle s'est auto-censurée.
Elle en a souffert, mais comment parvient-on à grandir entre deux parents de cette nature ?
Eh bien, finalement, c'est ce qu'on appelle la résilience. Hein. Et ça, j'en parle effectivement beaucoup dans ce petit livre « Vivre dans un monde imprévisible », parce que la résilience, c'est tout simplement se construire à partir d'un problème, à partir d'une souffrance. Et les gens résilients, ce sont des gens qui ont pu, à partir d'une difficulté qui était chaotique, moi j'étais dans un chaos, donc j'avais de la souffrance intérieure, mais ça m'a obligé à chercher une solution. Et donc j'ai développé mon intelligence, j'ai développé ma réflexion, j'ai développé aussi peut-être une sensibilité particulière, de l'empathie, et ce qui fait que finalement je me suis construit à partir de ce problème, mais en le résolvant, à travers aussi de la thérapie, hein, j'ai dû faire de la psychothérapie pendant plusieurs années, eh bien en le résolvant, j'ai peut-être grandi, je me suis peut-être amélioré. J'aurais peut-être pas fait tout ce chemin-là si j'avais eu une enfance heureuse.
À l'âge de 19 ans, Frédéric Lenoir, vous étiez dans une telle quête spirituelle que vous avez intégré, tout en poursuivant des études de philo, la communauté de Saint-Jean, où vous êtes resté 3 ans. Alors, comment avez-vous vécu dans cette communauté? C'était une sorte de séminaire? Vous auriez pu vous engager comme prêtre, puisque vous aviez été bouleversé par la lecture des évangiles à l'adolescence?
Alors, j'avais rejeté mon éducation catholique pour les raisons qu'on vient d'évoquer, que je trouvais très culpabilisant, dogmatique,
mais vous
etc.
intégrez la communauté de Saint-Jean.
C'est-à-dire que j'ai quand même lu les évangiles à 19 ans, et j'ai été bouleversé par le message du Christ, qui est d'ailleurs que j'ai trouvé en contradiction avec l'éducation catholique que j'ai reçue. C'est un message de liberté, c'est un message au contraire qui libère l'individu, qui lui permet de grandir dans son désir, d'aller, c'est un amour universel, etc. Donc j'étais bouleversé par ce message, et puis je pense que j'avais un idéal d'une vie simple, pauvre, etc. Et donc je suis rentré dans une communauté religieuse. C'est-à-dire, je voulais être moine, je voulais pas être prêtre, j'ai pas envie de dire la messe.
Mais vous vouliez être moine.
C'est-à-dire, j'avais envie de vivre une vie contemplative. J'adore la nature, donc j'étais dans un monastère en pleine nature. Et puis on avait des... Voilà, on mélangeait...
En Suisse.
Donc j'étais au départ en Suisse, parce que je faisais mes études de philo en Suisse, et là que j'ai rencontré cette communauté.
Oui.
Et puis après, tout en continuant mes études philo, je n'ai pas arrêté mes études, j'ai été vivre en Bourgogne. Là, c'était... on était en Bourgogne, près de Chalon-sur-Saône, dans un très bel endroit. Et là, j'ai vécu une vie contemplative. Mais je me suis rendu compte... d'une part, j'étais pas fait pour la chasteté. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais pas tenir toute ma vie. Non, mais c'est vrai, autant le reconnaître. Et donc, je me suis dit, je vais pas tenir toute ma vie là-dedans. Et la deuxième chose, c'est que je m'apercevais que j'avais des décalages très forts entre mes convictions philosophiques, justement, et le discours dogmatique de l'Église. Et donc, même si j'aimais le Christ, j'étais pas fait pour vivre, dans une communauté religieuse dans laquelle on nous dit toute la journée que la vérité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et j'avais déjà trop d'expériences personnelles avec l'Inde, notamment. Je m'étais intéressé à la méditation,
puisque
au bouddhisme,
vous êtes
etc.
parti à Calcutta. Mais justement, vous aviez une curiosité pour d'autres courants
d'autres
pensée.
Courants spirituels,
d'autres
philosophies.
Spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi, d'ailleurs, en 86, de faire votre thèse de doctorat en sociologie sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident.
Alors, j'ai quitté le monastère au bout de 3 ans.
Ouais.
Et puis, après, après ma maîtrise de philo, j'ai fait un doctorat en sociologie parce que j'avais été passionné par ma découverte du bouddhisme. Et je me suis rendu compte que l'un des grands événements, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Arnold Toynbee. C'est le plus grand historien des civilisations. C'est un Anglais qui est mort il y a quelques années. Et Arnold Toynbee a dit dans un de ses livres, dans un de ses derniers ouvrages, on lui a posé la question, d'ailleurs, c'est un livre d'entretien, on lui a posé la question, quelle est selon vous, à l'échelle de l'histoire des civilisations, donc l'histoire longue, l'événement le plus important du XXe siècle? Nous, on répondrait à Auschwitz, Hiroshima, les guerres mondiales, etc. Et pas du tout. Il dit, à l'échelle de l'histoire des civilisations, ce qui restera sans doute comme l'événement le plus important du XXe siècle, c'est la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. C'est-à-dire, au fond, c'est la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Et pour lui, ça veut dire quoi? Et j'ai voulu le creuser à travers cette thèse. Ça veut dire que le bouddhisme nous apporte quelque chose qui manque totalement en Occident, qui est l'intériorité, qui est l'introspection, qui est la connaissance de soi, qui existait chez les Grecs, mais qu'on a oublié dans le monde moderne. Et puis, le monde moderne apporte au bouddhisme, c'est-à-dire apporte au monde asiatique, effectivement, aussi toute une réflexion technologique, scientifique, etc. Donc, l'alliance de la science et de la conscience, elle peut se faire notamment par cette rencontre du bouddhisme.
Oui, mais l'Occident a quand même dévoyé le bouddhisme. Il y a un malentendu dans la manière dont le bouddhisme est pratiqué en Occident.
Sûr.
Parce que, par exemple, le propre de nos sociétés occidentales, c'est en fait souvent de tout ramener au développement personnel qui flirte avec la recherche du bien-être, en confondant par exemple méditation et yoga. Il y a un côté comme ça.
C'est vrai qu'on peut dévoyer les pratiques, les pratiques de yoga, de méditation, les pratiques spirituelles. On peut les dévoyer dans une sorte de consumérisme spirituel.
Voilà.
Et donc, c'est vrai qu'il y a un danger. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un danger qu'il ne faut pas le faire. Et donc, je crois qu'il faut être conscient qu'on peut utiliser le développement personnel comme un outil narcissique. Mais il faut être conscient que c'est aussi quelque chose qui peut nous ouvrir encore plus à l'autre, nous apprendre à mieux nous connaître pour mieux aimer les autres. Et je pense qu'il y a dans le développement personnel, dans la méditation, dans le yoga, ce sont des formidables outils de croissance de l'être humain, mais qu'il faut savoir les utiliser à bon escient, c'est-à-dire toujours garder l'intention. Et pour moi, la bonne intention, elle est altruiste. C'est-à-dire grandir pour encore aimer mieux, pour être plus tolérant et ne pas se renfermer sur soi. Et si on garde cette intention altruiste, cette intention d'ouverture aux autres, eh bien, on ne se perdra pas du tout dans le développement personnel.
On retrouve tout de suite Frédéric Lenoir.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Fayard publie « D'un monde à l'autre, le temps des consciences », échange d'idées argumentées entre Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir, sociologue et philosophe, cet après-midi mon invité. Alors cher Frédéric Lenoir, en avant-propos de ce livre, qui est donc une longue conversation très nourrie, on peut lire cette lettre que Romain Gary a écrite en 1968. « Monsieur et cher éléphant ». J'ai le sentiment que nos destins sont liés et pourtant on nous considère comme incompatibles avec l'époque actuelle. Il n'est pas douteux, monsieur l'éléphant, que votre disparition signifiera le commencement d'un monde entièrement fait pour l'homme. Et dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y ait pas de place pour l'homme. Alors laissez-moi vous dire, vous êtes notre dernière innocence. Car dans une société aussi matérialiste et réaliste, poète, écrivain, artiste, rêveur et éléphant ne seront plus que des gêneurs. Voilà. Mais que dirait Romain Gary de notre époque, Frédéric Lenoir ?
Il est visionnaire.
Qui a eu l'idée de...
C'est Nicolas Hulot qui connaissait ce texte, qui m'a dit « Est-ce que tu connais la lettre à l'éléphant ?» Et ça, c'est tout le propos de notre livre. C'est-à-dire, c'est de rappeler effectivement que c'est bien d'avoir plus d'efficacité, etc. Et tout. Mais si on vit tout au niveau du rendement, de la technique, de l'efficacité, etc., mais on oublie toute la dimension poétique de la vie. Et la vie s'est fait aussi essentiellement peut-être de beauté, d'amour, de tendresse, d'un tas d'autres choses que l'utile. Donc il faut absolument qu'on redécouvre la gratuité. Il faut qu'on redécouvre le temps, il faut qu'on redécouvre la contemplation, le fait de regarder la nature et de voir combien elle nous réjouit. Et donc effectivement, dans un monde où on est en train d'éliminer les éléphants, les rhinocéros, tous ces animaux qui nous font rêver, eh bien c'est tragique parce qu'on a besoin d'eux pour rêver, on a besoin de poésie, on a besoin d'être en communion aussi avec les autres espèces animales, avec la nature. Et c'est pour ça qu'on plaide dans tout ce livre pour qu'on se rappelle que l'humain a besoin d'un tas d'autres choses que simplement l'utilitaire.
Dans ce livre, d'ailleurs, Nicolas Hulot affirme qu'un progrès dont les effets nous dépassent n'est pas un indice de civilisation. Et vous considérez, Frédéric Lenoir, qu'il y a un mythe de la modernité et que le mythe du progrès, malgré les Trente Glorieuses, a commencé à s'effondrer, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais alors pourquoi la course effrénée de la surproduction ne s'arrête-t-elle pas et ne s'arrêtera peut-être jamais ?
Alors, ce que je rappelle, c'est que, en fait, l'idée de progrès, elle est née au XVIIIe siècle avec des penseurs comme Lessing, Turgot, etc., qui ont pensé que le progrès des sciences, de la connaissance et des techniques allait forcément conduire à un progrès de l'humanité en général, que l'être humain allait s'améliorer. Or, on a vu que non. On a vu que ce progrès des sciences et des techniques et de la culture n'a absolument pas empêché la barbarie du XXe siècle. Ça n'a pas empêché les camps de concentration, Hiroshima, les guerres mondiales, etc. Et donc, ce qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est que le progrès des sciences et des techniques, ce n'est pas un progrès de l'humain. Et donc, il faut bien avoir conscience que, oui, les révolutions de la modernité, des sciences et des techniques, c'est utile, mais ça ne suffit pas, il faut une conscience à côté de ça.
J'ai vu récemment des images, en fait, de la robotisation absolument phénoménale sur le port de Shanghai. On ne voit plus un être humain d'ailleurs qui passe. On a l'impression qu'on est projeté dans le quatrième millénaire. C'est assez effrayant.
C'est vrai qu'un monde sans éléphants, ça fait peur, mais un monde sans humains aussi. Parce qu'effectivement, si les robots doivent nous remplacer partout, alors que l'être humain a besoin de travailler d'ailleurs. Le travail, c'est une expérience fondamentale de l'être humain pour s'épanouir. Donc remplacer tous les travaux par des robots, non. Il y a des tâches très difficiles qu'on peut remplacer. Tant mieux que des tâches très pénibles de répétition de gestes mécaniques, etc., puissent être remplacées par des robots. Mais je vais vous donner un seul exemple. Je trouve que quand on va à la poste et qu'on n'a plus personne, que tout est robotisé comme ça, c'est pas un progrès. Il vaut mieux qu'on ait des interlocuteurs. Donc arrêtons de robotiser absolument toutes les fonctions.
On a parlé religion, mais j'aimerais qu'on parle de l'instinct. Alors d'abord, si on prend l'histoire des religions, et vous en êtes un spécialiste, Frédéric Lenoir, avec la sédentarisation, j'ai appris tout ça justement dans ce fameux livre, l'homme a changé de croyance. Il a décidé que les esprits invisibles, on ne les rencontrerait plus dans la nature, mais au ciel. En fait, l'homme a instauré une verticalisation. Les dieux soudain sont devenus cosmiques. Il a vraiment levé les yeux vers les cieux. Et du coup, il n'a plus considéré la nature comme un être vivant et sacré. En France, au XVIIe siècle, c'est Descartes qui a déclaré que l'être humain devenait maître et possesseur de toute chose. Et depuis, on a grandi avec cette idée donc, de supériorité sur le monde animal, végétal et minéral. Et on a perdu notre instinct. Ça, c'est un des sens vraiment essentiels à notre survie.
Mais bien sûr, et dans ce livre avec Nicolas Hulot, on s'est beaucoup interrogé sur l'arrachement de l'homme à la nature, de l'être humain à la nature. quelles sont ses conséquences. Et c'est vrai que je réexplique, du coup, je prends le temps, comme vous l'avez rappelé, de réexpliquer comment s'est passé cet arrachement. Parce qu'au départ, l'être humain, il se considérait comme faisant partie de la nature.
Oui, immergé
dans la nature, comme un animal, comme un autre. Il ne se sentait pas supérieur aux autres êtres vivants. Et c'est le passage du paléolithique au néolithique, effectivement, lorsque l'homme s'est sédentarisé, il était un chasseur-cueilleur, il vivait dans des petits groupes d'une vingtaine d'individus, et d'un coup, il s'est sédentarisé, et du coup, ça a complètement changé son mode de vie et ses croyances. Il s'est coupé de la nature, il s'est dit le divin n'est pas présent dans les esprits de la nature, comme le pensent tous les peuples animistes, mais il est au-dessus, au ciel, il y a des dieux invisibles, et donc dans cette hiérarchie, il a mis les dieux au-dessus, lui au milieu et en dessous. En dessous, les autres vivants.
Et les animaux, le minéral et le végétal.
Et il a commencé à les dominer, à les exploiter. Et il faut sortir de ça aujourd'hui. Il ne faut pas exploiter la terre et les animaux. Il faut vivre avec eux. Si on veut vivre en harmonie dans le monde dans lequel on est, et on a tout intérêt à le faire, eh bien à ce moment-là, il faut changer nos comportements dans beaucoup de domaines.
Vous dites à l'instant, on a tout intérêt à le faire, parce que dans l'univers, on oublie souvent que la vie n'est pas du tout la norme. La sonde voyageur, par exemple, qu'on a envoyée et qui est carrément sortie du système solaire, elle n'a pas encore réussi à nous envoyer le moindre signe de vie. Et en fait, on a le sentiment vraiment que la vie, miraculeusement, n'est apparue que sur notre petite minuscule planète. Donc, la vie sur Terre est une exception. On n'en a toujours pas pris conscience, c'est quand même extraordinaire.
Alors
ça.
Là, je ne partage pas tout à fait votre avis. C'est-à-dire que moi, je suis intimement convaincu, mais je n'ai aucune preuve scientifique.
Que nous ne sommes pas les seuls.
Que nous ne sommes pas les seuls, oui. Je suis intimement convaincu que la vie a dû apparaître dans d'autres galaxies.
Alors, peut-être
pas
la nôtre. À réfléchir.
Peut-être pas notre système solaire, ça. Mais il y a tellement de milliards de galaxies que je serais très étonné que ça ne soit pas apparu ailleurs. Mais par contre, peu importe. La vie est apparue ici, c'est déjà un miracle effectivement quand on voit les scientifiques nous expliquent tout ce qu'il fallait, les conditions
qu'il fallait réunir
pour que la vie et la conscience puissent apparaître sur Terre. C'est tellement extraordinaire, les probabilités sont tellement incroyables que du coup on se dit mais préservons cette vie, faisons tout pour préserver cette vie qui existe dans une planète magnifique. Je le disais tout à l'heure, la planète est belle, la France est un pays magnifique, donc faisons tout pour préserver nos paysages, pour préserver les écosystèmes, parce que si on ne fait pas tout pour ça, eh bien, je pense que la planète va nous éjecter, un peu comme un virus. Si vous voulez. Donc là, on lutte contre le coronavirus, mais peut-être que la planète, avec ses écosystèmes, vous savez, c'est extraordinaire les écosystèmes, c'est qu'il y a des lois naturelles de régulation qui fait que lorsqu'une espèce domine trop les autres ou devient nuisible à l'ensemble, elle est éjectée. Et on voit ça, par exemple, dans les milieux marins, les écologues ont observé que lorsqu'il y avait une espèce qui dominait tellement les autres qu'elle détruisait l'écosystème, il y avait un virus qui apparaissait et qui tuait cette espèce. Peut-être qu'il se passera des lois de régulation naturelle. Ce n'est pas une justice divine. Je ne suis pas du tout en train de dire que Dieu va punir les hommes. Ce n'est pas du tout ça.
Bien sûr.
C'est des lois naturelles de régulation qui fait que quand quelque chose ne fonctionne pas, l'écosystème trouve une parade.
Alors le problème, c'est
que de se débarrasser
la
de ce qui est menaçant.
Et Mars ne seront pas des planètes amies, n'est-ce pas ?
C'est pas là qu'on va aller vivre. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout envie d'aller vivre dans une capsule, vous voyez, dans une bulle d'oxygène sur une planète comme Mars. C'est clair.
Et dans l'obscurité.
Je préfère qu'on laisse à nos enfants et nos petits-enfants une planète belle et habitable. Or, le problème écologique, c'est qu'on sait que la planète ne sera peut-être plus habitable pour l'être humain dans plusieurs décennies si on continue de vivre comme ça. Si on continue de piller les ressources naturelles, de détruire les écosystèmes.
De la démographie,
mais qu'elle est liée au réchauffement.
Jamais.
Oui, alors c'est à cause de ça. Parce que le problème de la démographie, si on vivait tous comme les Indiens, on n'aurait pas de problème démographique. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, les Indiens, ils utilisent qu'une partie, que les deux tiers des ressources nécessaires de la planète chaque année. Nous, on dépasse largement les ressources. Et donc, il suffit de se modérer. 10 milliards d'individus peuvent vivre sobrement, mais pas comme le vivent notamment les Américains.
Pour tout de suite, Frédéric Lenoir.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Pour parler de sagesse et de résilience, il vaut mieux en avoir expérimenté les ressorts. Vous, Frédéric Lenoir, vous n'aviez pas 20 ans quand vous avez décidé de partir travailler bénévolement à Calcutta, dans un mouroir et dans une léproserie. Alors, il y a ceux qui songent à le faire et puis il y a ceux qui le font, comme vous. Vous avez alors atterri sur une autre planète, la capitale du Bengale occidental, où Mère Teresa avait installé la congrégation religieuse des missionnaires de la charité. Voilà, une ville où les trois quarts des habitants vivaient dans des bidonvilles. Je voudrais savoir d'abord comment vous êtes parti, c'est-à-dire avec quoi dans la tête et dans le cœur, Frédéric Lenoir.
Moi, j'avais été bouleversé par un reportage que j'ai vu à la télévision. On voyait Mère Teresa avec un petit enfant dans les bras, qu'on avait trouvé dans une poubelle, donc un bébé qui venait de naître, qui avait été mis dans une poubelle. Et l'enfant avait l'air complètement éteint. Il n'ouvrait pas les yeux et tout. On se dit, il se laisse mourir, même si on l'a rapporté à l'orphelinat, on l'a nourri au biberon et tout. Il se laissait mourir. Et Mère Teresa l'a pris, l'a secoué, l'a embrassé, lui a parlé et tout. Et à un moment donné, l'enfant a ouvert les yeux et a souri. Et ça, j'en ai pleuré. Et je me suis dit, mais j'ai envie de vivre cette expérience de rencontre avec ces missionnaires qui font ce travail-là. Et donc, j'ai été en Inde et j'ai travaillé dans un mouroir.
Combien de temps ? 3 mois, 6 mois ?
J'ai passé 6 mois. Oui. J'ai travaillé dans une léproserie, dans un mouroir. Et donc là, j'ai vu des choses qui m'ont totalement changé mon regard sur le monde. Puisque je m'attendais très souvent, quand vous allez dans une léproserie, vous vous dites, je vais trouver des gens qui sont, vous savez, qui n'ont plus de nez, ils n'ont plus de main, qui sont atrocement tristes. Eh bien, pas du tout. J'ai rencontré des gens très joyeux.
Mais mutilés.
Et donc là, j'ai été très déstabilisé et je me suis rendu compte que qu'est-ce qui les rendait joyeux ? C'est que ces gens vivaient dans un lien très fort. Ils s'entraidaient, ils avaient aussi certainement des croyances religieuses qui les aidaient à vivre. Et puis, ils avaient cette puissance de la communauté, du groupe, du lien, etc. et tout. Et puis, du coup, je me dis, ben, finalement, qu'est-ce qui rend le plus heureux les humains ? C'est l'amour, c'est le lien. Et je rentre à Paris après ces mois en Inde, et là, je vais dans le métro, je vois tout le monde fait la tête. Et je vois le contraste entre des gens qui vivent dans un certain confort matériel, en bonne santé, etc., et qui ont l'air tristes, et tous ces gens qui vivaient dans les pires situations matérielles en Inde et qui étaient joyeux.
C'est pas évident, à l'âge de 20 ans, de travailler dans un mouroir. Concrètement, en fait, vos tâches étaient lesquelles ?
Eh bien, c'était simplement de prendre soin des personnes qu'on ramassait. On allait dans la rue, on ramassait les gens qui mouraient et on les mettait dans un lieu où ils étaient accompagnés. Et le plus important, ce n'est pas tant les soins médicaux. Bien sûr, c'est important de les nourrir, de les hydrater, de voir s'ils n'avaient pas des... Si on pouvait faire... On n'avait pas beaucoup de moyens médicaux, mais il y avait quelques médecins qui étaient là. Mais le plus important, ils allaient mourir de toute façon, ces personnes. Elles étaient dans des maladies très graves ou elles étaient irrécupérables, malheureusement. Mais ce qui était le plus important, c'est de les accompagner affectivement. C'est-à-dire leur tenir la main, de les regarder. Moi, je masse bien, je leur massais le crâne. Je faisais des petites choses, des petits gestes. Et je voyais qu'ils pleuraient, ça leur apportait énormément.
Vous
et
étiez donc, avec les missionnaires de la charité, c'est ça ? Donc vous avez rencontré Mère Teresa ?
Oui, une fois.
Comment ça s'est passé, Frédéric Lemoine ?
C'était très rapide, hein, parce qu'elle est venue comme ça, voir si tout allait bien et tout. C'est une personne qui a été très, très efficace. Alors, elle était vraiment dans... tout doit être organisé, c'est une organisatrice. Donc, je n'ai pas un souvenir particulièrement ému de la rencontre avec Mère Teresa. J'ai un souvenir particulièrement ému, même si j'admire énormément le travail qu'elle a fait, des gens que j'ai rencontrés. C'est-à-dire des personnes que j'ai accompagnées. Et je me souviendrai toute ma vie d'un lépreux à qui on coupait la jambe. Donc, j'étais avec un chirurgien. Il n'était pas anesthésié. Parce que la lèpre, c'est une maladie des nerfs. Donc, ils ne ressentent pas du tout la douleur. Donc, on le coupait la jambe sans anesthésie. Et il souriait et il riait. Et là, j'étais complètement bouleversé. Et il me disait, mais c'est pas grave. Il y a tellement de choses qui sont belles et tout. Et vraiment, j'ai pris des leçons de vie avec des gens qui ont marqué ma vie, qui étaient ces lépreux, qui étaient ces mourants, qui étaient ces enfants. Et ça, ça a changé tout le destin de ma vie. C'est qu'après, j'ai envie de me consacrer à des choses essentielles. Et aujourd'hui, je consacre la moitié de mon temps à des associations. J'ai créé plusieurs associations et je trouve que c'est essentiel d'être dans le lien, d'essayer de donner. Et vous savez, je suis très heureux. Pourquoi ? Parce que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Mère Teresa est morte en 97, à Calcutta. Vous y êtes retournée depuis ? Parce que, par exemple, l'Inde du 21e siècle, on en parle souvent au travers de des étudiants qui sont si forts en algorithmes, mathématiciens prodigieux. Mais il y a toujours autant de misère, de bidonville, de douleur ?
Oui, alors l'Inde, aujourd'hui, c'est un pays à deux vitesses. Un pays essentiellement pauvre quand j'y étais. Aujourd'hui, c'est un pays où il y a une classe moyenne qui a émergé, il y a des gens très riches, et puis il y a encore la majorité des gens qui vivent très, très sobrement. Et puis, il y a une misère très forte dans les bidonvilles, c'est-à-dire aux alentours des grandes villes. Dans les campagnes, les gens qui arrivent à survivre, je dirais qu'ils ont, une vie qui est sobre, mais dans laquelle ils ont le minimum pour vivre et c'est des gens plutôt heureux. Alors, dans les bidonvilles, vous avez de tout. Vous avez effectivement une misère noire, et puis vous avez même au sein de cette misère noire, souvenez-vous du documentaire et du livre de Dominique Lapierre, La Cité de la Joie, qu'il a fait dans un bidonville de Calcutta. Vous avez malgré tout des gens, encore une fois, très joyeux. Moi, je me souviens d'avoir, et plus que ça, des gens qui n'ont pas perdu le lien avec les autres. Je me souviens qu'une fois, on avait apporté une marmite de riz à des gens qu'on connaissait dans un bidonville. La première chose qu'ils ont fait, c'est de partager avec leurs voisins, qui n'étaient pas de la même religion en plus. C'est des chrétiens qui partageaient avec les musulmans en disant, eux, ils n'ont pas mangé depuis plus longtemps que nous. Et ça, c'est merveilleux. Quelle leçon d'humanité.
On retrouve immédiatement Frédéric Lenoir.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Frédéric Lenoir, vous, le philosophe, historien des religions, est-ce que vous priez ?
Je prie tous les jours. Mais lorsque j'étais au monastère, etc., ma prière était très identifiée par rapport au Dieu de la Bible, si vous voulez. Et aujourd'hui, je vais vous dire, je ne sais pas qui est Dieu. C'est-à-dire que quand je prie Dieu, je dis merci à Dieu, je ne sais pas à qui je m'adresse. C'est-à-dire qu'au fond, je pense, je suis intimement convaincu, je ressens qu'il y a une force supérieure qu'on appelle Dieu. Mais après tout ce qu'on dit sur Dieu, on n'en sait rien. Au fond, la chose la plus certaine qu'on peut savoir de Dieu, c'est qu'on ne sait rien de lui. Mais que c'est la force qui fait que l'univers reste dans une cohésion. C'est l'harmonie du monde. Et donc, je crois que les religions proposent des choses qui sont vraies, qui sont des intuitions qu'ont eues les prophètes de ce que pouvait être ce Dieu d'amour. Et puis, elles sont aussi liées par leur culture, elles sont liées par leur époque, par les enjeux de leur époque, par les passions humaines. Et il faut savoir faire le tri.
Alors vous, chaque jour, vous priez, mais est-ce que je peux dire que dans nos civilisations occidentales, ceux qui autrefois priaient, désormais méditent ?
Alors, c'est vrai que beaucoup de gens, parce qu'ils ont fait le même constat que moi, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté, si vous voulez, les religions trop dogmatiques ou qui leur disent des vérités soi-disant éternelles dont on s'aperçoit qu'elles sont très relatives. Donc les gens ont pris de la distance avec la religion et certains, pas tous, hein, des gens continuent de prier et, comme ils l'ont toujours fait. Et il y a d'autres gens qui effectivement ont remplacé la prière qui s'adresse à un Dieu dont on ne sait plus très bien qui il est, qui ont remplacé cette prière par la méditation qui est plutôt un moment de silence et d'intériorité. Et moi je dis les deux sont complémentaires. C'est pas la même chose. Dans la méditation, vous adressez pas à quelqu'un, vous ne parlez pas, vous êtes dans le silence intérieur. Et je crois que dans la vie spirituelle, on a besoin de ce silence intérieur.
Mais vous vous connectez besoin. À
moi,
l'univers,
je fais les deux.
C'est ça ?
Moi, je fais les deux. Je médite depuis 30 ans. J'ai appris la méditation chez les bouddhistes. Hein, donc, je médite depuis 30 ans parce que, effectivement, j'ai besoin de silence intérieur. Et à côté de ça, je prie parce que je pense qu'il y a une force qui nous dépasse, auquel on peut s'adresser et à qui je dis merci. Voilà. Je dis merci toute la journée. Moi, c'est ma seule prière, d'ailleurs.
Alors, Frédéric Lenoir, ça vous contrarierait d'être immortel ?
Ah, moi, ça ne me gênerait pas du tout, parce que je trouve que la vie est tellement belle que si je pouvais vivre éternellement, mais par contre, je n'ai pas envie de vivre éternellement dans n'importe quel contexte, et pas dans un monde qu'on est en train de détruire. Et donc, pour moi, ce qui est très important, qu'on soit immortel ou pas, c'est qu'on rende ce monde viable pour les générations futures. Et ce qui est très important, c'est qu'on travaille à ce qu'il y ait un monde harmonieux, une société harmonieuse, dans laquelle nos enfants pourront vivre en paix, sereinement, développer leurs capacités humaines, alors que si on continue d'être dans des sociétés inégalitaires, dans lesquelles il y a de plus en plus de violence, dans lesquelles il y a de plus en plus de jalousie, dans lesquelles il y a un environnement qui est détruit, ça ne donne pas envie d'être immortel.
Pardonnez-moi cette indiscrétion, mais vous avez des enfants ?
Je n'ai pas d'enfants, j'ai élevé les enfants de ma compagne.
Vous avez élevé les enfants de votre compagne, voilà. Parce que je me disais, les voies de la sagesse sont peut-être parfois, sont plus aisées, on va dire, à emprunter quand on n'a pas substitué à des ados qui expérimentent le monde par systématiquement et d'abord le rejet. Mais en même temps, la jeunesse, elle est plus en alerte que nous sur l'urgence qu'il y a, n'est-ce pas, à changer nos modes de vie et sur l'écologie. Alors, simplement, pour terminer cette conversation, je voudrais honnêtement que vous me répondiez. Vous êtes optimiste ?
Alors, je suis lucide et optimiste. C'est-à-dire lucide, c'est-à-dire je suis conscient qu'il y a plein de problèmes, que les choses peuvent aller dans toutes les directions. Tout est possible. Mais je suis optimiste parce que je pense qu'il y a des solutions. Alors que quelqu'un de pessimiste vous dira il y a aucune solution, c'est foutu. Moi, je suis optimiste dans la mesure où je pense que bien que les choses sont mal barrées, il y a encore des solutions. Et je suis optimiste aussi parce que vous venez de le dire, pour la raison que vous venez d'évoquer, je regarde les enfants et je vois que chez les enfants, et vous savez, j'ai créé une fondation qui s'appelle Sève, c'est l'acronyme de Savoir-être et vivre ensemble, et on fait des ateliers de méditation et de philosophie dans les écoles. Et les enfants qui ont fait des ateliers de philo
vous
avec
vous
eux...
Vous vous déplacez ?
Oui, j'en ai fait des centaines et aujourd'hui, on forme des gens. On peut retrouver ça sur le site sève.org. On forme des gens, des enseignants et des non-enseignants qui font des ateliers de philosophie dans les écoles. Mais c'est formidable parce que les enfants, quand vous parlez avec eux, vous voyez qu'ils sont très sensibles à l'environnement, très sensibles aux animaux. Ils ne veulent pas qu'on fasse souffrir les animaux, très sensibles au vivre ensemble. Et donc, il faut simplement les accompagner dans toutes ces graines de bonté qu'il y a en eux. Il faut les aider à développer ça et accompagner leurs réflexions parce que lorsque les enfants apprennent à discerner, à parler entre eux, etc., eh bien finalement, ils peuvent faire grandir le meilleur qu'il y a en eux et au lieu de devenir progressivement des adolescents égoïstes, centrés sur eux, etc. Donc on peut, par l'éducation, changer beaucoup de choses.
D'un monde à l'autre, le temps des consciences. Conversation avec Nicolas Hulot vient de paraître chez Fayard, ainsi que Vivre dans un monde imprévisible. Je vous remercie infiniment, cher Frédéric Lenoir.
Merci, c'était un vrai bonheur Isabelle, merci.
Alors je vous dis à bientôt.